La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Après toutes ces agapes et festivités du Jazz Ben Bowl qui a eu lieu samedi dernier, d'ailleurs quand nous aurons la bande sonore de ce concert, nous reviendrons certainement vous en faire profiter. Mais nous avons pensé, pour calmer le jeu et de nouveau affronter le domaine culturel et historique, continuer notre promenade dans le dictionnaire des titres.
Avec à juste titre.
Et nous en étions à la lettre W.
Si on était en France, la lettre W, vous savez, ce serait petit. Mais
ah
là,
oui,
avec les Watts, les When, les Why, et les West, eh ben, vous savez qu'il y a de quoi dire avec les W. Hein.
Nous avions déjà fait WA, et voilà maintenant WE, et nous voici avec un des disques les plus célèbres de toute l'histoire du jazz. Certains disent que c'est le plus grand de tous les disques de jazz.
C'est-à-dire celui que vous emporteriez sur une île déserte.
Voilà, l'île déserte. Eh bien, c'est pas On a Coconut Island. Ce morceau s'appelle West End Blues et il est joué par Louis Armstrong. Alors, madame, West End, qu'est-ce que c'est le West End? Parce que je connais celui de Londres, mais nous n'en sommes pas là.
Le West End, c'est une sorte, je dirais, de parc de loisirs avant la lettre. Des grandes étendues d'herbe, où les gens viennent pique-niquer, s'amuser, jouer au ballon.
Et puis en marge de ça, il y a quelques nightclubs qui fonctionnent donc pour prendre le relais des familles qui visitent dans la journée. Et tout ça, c'est à côté du lac Pontchartrain. C'est le bout du bout de là où on allait le Nouvelle-Orléans de manière facile. Et c'est pourquoi ça s'appelait le West End. Et le West End Blues, que vous allez entendre, a une particularité. Il y a une introduction à la trompette. Et un jour, Louis Armstrong a sous les yeux une partition pour enregistrer avec un autre orchestre. Et il dit, mais je peux pas jouer ça. Vous avez vu le nombre de quadruples croches et triples croches qu'il y a dessus, j'y arriverai pas. Et tout le monde éclate de rire. Et on lui dit,
mais c'est ce que tu joues.
C'est ton introduction de West End Blues.
Thank you.
Cette fameuse introduction de Western Blues, tous les trompettistes la connaissent par cœur, mais certains seulement arrivent à la jouer. C'est un sacré test. Il y a très peu de gens qui peuvent jouer ça. Ça part à blanc sur un contre-ré.
Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est très difficile le contre-ré à la trompette.
Surtout d'un seul coup comme ça, d'un seul. Hein. C'est très fort. Puis ça se termine également sur un contre-ré. Donc, voilà. Et maintenant, le titre suivant, c'est...
What's your number? Alors, on se dit, quel est ton numéro? Bon, on pense que c'est un type qui demande à une petite, allez, donne-moi ton numéro de téléphone. Il ne s'agit pas de ça.
Ah non, pas du tout.
Il s'agit d'un numéro militaire.
Et oui, nous sommes pendant la guerre et les jeunes noirs, comme tout le monde, passent devant la commission médicale pour savoir ce qu'on va en faire. Et là, on leur donne une note en fonction des tests, des examens. Et cette note peut aller de 1A à 4F. C'est vous dire qu'il y a de la nuance.
Oui, la note, ce n'est pas une histoire d'intellect, hein, c'est une histoire de physique.
Il y a donc 24 notes possibles, si tu comptes bien. Alors, je ne voudrais pas être à la place du pauvre gars qui a 4F, ou plutôt aussi, en 1942 ou 3, c'était intéressant parce qu'on était renvoyé chez soi et dans son orchestre. Et les musiciens se demandaient les uns aux autres, tu y es passé, mais qu'est-ce que tu as comme numéro? Parce que selon le numéro, tu allais dans les Marines, tu allais sur un bateau, tu étais admis à apprendre à piloter un avion, ou bien tu devenais cuisinier du porte-avions, ou bien simplement tu rentrais chez toi. Donc c'était très important. Et Count Basie en a fait un morceau, composé et arrangé par son trompettiste Buck Layton, qui a dû partir à l'armée juste après, je suppose. Et ça s'appelle donc...
What's your number?
D'un big band à l'autre, le dictionnaire nous emporte maintenant vers un morceau qui s'appelle
« What's your story, morning glory ?» Ce qui veut dire ?«
Oh ben, c'est quelque chose comme « Comment vas-tu, yacht poil ?» Et toi, la matelas, enfin tout ce qu'on peut imaginer en pareilles circonstances.
Oui, sorte de jeu de mots un peu débile, mais qui fait rire encore.
Et oui, parce qu'en plus, c'était dit en rythme. What's your story, Morning Glory? Il y avait quelques autres variantes. Il y avait What's your plan, Charlie Chan? Ou bien What's your song, King Kong? Bref, tout ça, ça veut dire comment allez-vous? How do you do? Et c'est l'orchestre de Jimmy Lunsford qui a eu l'idée d'enregistrer ce morceau. C'est de nouveau un big band, un grand orchestre, comme je disais tout à l'heure. Et il faut vous représenter quand même les grands orchestres de cette époque qu'on appelait l'époque swing.
Là, il ne se présentait pas vraiment en basket, jean un peu effrangé, culé sinon troué. Ils étaient en smoking, noir et blanc, les cheveux brillants de calamistre. Vous savez, on dit calamistré parce que c'était un vrai miroir. Et je vous garantis que ça avait de la gueule. Hein.
Quand on voit les photos de l'époque, ça a vraiment de l'allure. Puis alors, en plus, c'était sur une scène impeccablement rangée, qui n'était pas encombrée par des micros, des fils, des retours, tout un tas de bazar, parce que c'était le seul micro, c'était celui de la chanteuse quand il y en avait une.
Et c'était le son direct. Hein.
Et alors, derrière l'orchestre, en fond de scène, il y avait des décors fabuleux. Je crois qu'on devrait faire un bouquin de photos sur les décors de fond de scène de cette époque-là. C'est extraordinaire.
Il n'hésitait devant rien.
Ah, devant vraiment rien. La portée, les dièses, les bémols, les clés de sol, les clés de fa, les notes, les doubles croches, là, c'était mis à toutes les sauces, dans le zigzag, dans tous les sens, et avec des couleurs, des graphismes, vraiment immense créativité.
Et quand c'était Duke Ellington, avec le style jungle, je vous dis pas.
Ah oui, là, c'est en plus le décor du Cotton Club, alors c'est encore autre chose. Enfin, écoutez, voici toujours... What's your story?
Morning Glory! Maintenant, un morceau dont il faut qu'on vous explique tous les jeux de mots. Ça commence déjà par le nom de l'orchestre qui joue, puisqu'il s'appelle Artichaut.
Oui, mais ça, c'est un jeu de mots qu'en français.
Mais voilà, c'est que le jeu de mots français, parce qu'en Amérique, ça ne les fait pas rire du tout. Étant donné que Arti est un prénom.
Ah, ben c'est Arthur.
Ah, c'est le diminutif d'Arthur, voilà. Et Chaud, c'est S-H-A-W, c'est un nom très très courant. Mais nous, les Français, on trouve ça marrant, Artichaut.
Et alors, ce Artichaut, qui était un virtuose de la clarinette de jazz, avait un big band. Là, il est en petite formation. Mais il avait un big band également. Et il était très connu pour ses succès féminins, conjugaux et extra-conjugaux. Il a eu des maîtresses hyper célèbres, je ne sais pas moi. Lana Turner, Ava Gardner. Je ne vais pas vous faire l'inventaire, ce serait trop long. Mais c'était un Don Juan terrible.
Et bien sûr, comme tout Don Juan qui se respecte, il va vous parler de ses aventures. C'est là qu'intervient le jeu de mots. Parce que le morceau s'appelle « When the Quail Come Back to Saint-Quentin ». Alors, quail, c'est une petite caille très jeune, une caillette, voyez, façon tout à fait charmante de dire une sorte de Lolita. Et quand ces messieurs sortaient, pour ne pas dire autre chose, avec une Lolita, ben, ils risquaient la prison. Et la prison, elle était où ?
À Saint-Quentin.
Alors, le titre, c'est exactement « Quand les petites cailles reviennent à Saint-Quentin ».
Et sans doute qu'Artichaut a eu un jour des ennuis un peu identiques à ceux qui ont affecté nos chers footballeurs qui avaient une faiblesse coupable pour une mineure à une époque, si vous vous souvenez.
N'est-ce pas ?
Et ils se sont emparés d'un morceau qui s'appelle, un morceau très connu en Amérique, qui s'appelle « Quand les hirondelles reviennent à Capistrano ».
Et ils l'ont transformé en « Quand les caillettes vous amènent à Saint-Quentin ».
Eh bien voilà, vous avez tout compris. Voici le morceau avec un remarquable solo d'un trompettiste méconnu qui s'appelait, mais que nous avons vu pour de vrai, nous, une fois à Nice, il y a longtemps, qui s'appelait Billy Butterfield.
le morceau suivant, on va partir dans une sorte de melting pot très américain, puisqu'on va prendre un instituteur canadien, mais qui est d'origine irlandaise. Et on va parler d'une certaine Maggie.
Et cet instituteur qui s'appelait Johnson a épousé cette demoiselle qui s'appelait Clark. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques mois après ? La pauvre Maggie Clark est morte de froid, d'une pneumonie, on ne sait pas très bien.
Mais c'est pas rigolo du tout, tout ça.
Et le pauvre instituteur a fait une série de poèmes qui s'appelait Feuilles d'érable.
Et oui.
En anglais, hein, Maple Leaves. Et dedans, il y a Quand toi et moi étions jeunes, Maggie.
Tu dis ça en rigolant ?
Mais non, je dis pas ça en rigolant. Mais c'est quand même très époque parce que ça se passe en 1865.
Ah,
ça
bon.
Remonte pas, hein, ça remonte pas d'hier. Et l'année d'après, donc en 66, année de la bataille de Sadova qui mena tout droit à la guerre de 70, je vous signale, en 66, donc, un nommé James Austin Butterfield, Canadien né vivant à Chicago, mit de la musique sur ce poème. Ça devint donc un morceau qui a beaucoup servi dans le jazz à cette époque et qui est encore joué maintenant par certains orchestres. Et ce morceau s'appelle
« When you and me were young, Maggie ».
Et là, nous faisons appel aux fameuses Panassier Sessions, vous savez, cette série d'enregistrements organisée par Hugues Panassier à New York et qui a relancé le style Nouvelle-Orléans à partir de la fin des années 30. Et naturellement, comme dans la plupart des disques de ces fameuses séances, il y a Tommy Lanier à la trompette, Sidney Bechet, saxo-soprano et clarinette, et Milton Mesereau, qui là prend un solo de saxophone ténor, ce qui est relativement rare. Voici maintenant la voix de tonnerre du grand
Big Joe Turner. Big.
Pour l'avoir vu en vrai, nous pouvons vous dire qu'il était plutôt impressionnant, le personnage.
Imaginez une sorte d'armoire normande noire.
En forme de nounours quand même, légèrement ovalisée et une voix absolument extraordinaire. Big Joe Turner avait commencé d'ailleurs sa vie de musicien en chantant derrière un bar, il était barman. Puis il chantait avec l'orchestre à Kansas City à l'époque. La musique était partout et il chantait si bien que le pianiste de l'établissement, qui était Pete Johnson, a fini par le faire enregistrer. Puis ils ont formé un duo assez célèbre. Je pense que là, Big Joe Turner a quitté ses bouteilles, ses verres et ses torchons. Et il a fait une très belle carrière de blues shouter. Et nous l'avons vu à Paris avec un très bon orchestre. Et nous gardons un très grand souvenir de cette voix-là. Le voilà dans un morceau, ça nous ramène au titre, qui s'appelle...
Whistle Stop Blues.
Étonnant comme titre.
Whistle, ça veut dire le sifflet. Whistle Stop, ça veut dire l'arrêt sifflé. Vous vous souvenez peut-être de ce très vieux film en noir et blanc, un des premiers westerns que nous on a vu, mais qui repasse encore. Donc c'est un western qui n'a pas d'âge.
Très célèbre, avec Gary Cooper et Grace Kelly, je vous demande pardon.
N'est-ce pas? Et qui s'appelle... Le train sifflera trois fois. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans cette grande prairie américaine, on s'arrêtait à la demande.
Pour les petits patelins où il y avait un saloon, un maréchal Ferrand et trois commerçants, évidemment, on n'allait pas faire un arrêt, un train qui faisait des milliers de kilomètres.
Donc, on prévenait quand on allait s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'un voyageur voulait descendre dans ce pays perdu. Donc, le train, la locomotive, elle jetait un, deux ou trois coups de sifflet qui prévenaient fort longtemps à l'avance, j'arrive, préparez-vous parce que après je repars vite fait.
Et c'est tout le suspense d'ailleurs de ce fameux film qui réside dans savoir si le train va siffler ou pas. Et donc, en fonction de ça, de ces arrêts facultatifs, Big Joe Turner a composé un blues qui s'appelle donc...
Whistle Stop Blues.
There goes the 12 o'clock whistle. Dinner time for everyone but me. Well, I can't sleep and I can't eat. My life is filled with misery. I got a cold-blooded woman. I believe she's got ice water in her veins. I've got a cold-blooded woman. Believe she's got ice water in her veins. Boy, and ever since she loved me, no, I ain't never been the same. You know she sent me a telegram that we had a baby girl. I don't see how that could happen when I was halfway around the world. There goes the 12 o'clock whistle. Dinner time for everyone but me. Well, I can't sleep and I can't eat. My life is filled with misery. Baby, you sure look pretty tonight. Please believe me, that mid-trip's a killer. Come on up and give your daddy a little sugar. You stand so far away, bro. You don't stand that far away when you're getting my gold. Come on up, baby. Now, now we're getting together. Yeah, that's a guess. Sugar, you look fine. Die. That's the 12 o'clock whistle. Dinner time for everyone but me. Well, I can't sleep, baby. My life is full of misery.
Il y a deux choses très intéressantes dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, que le pianiste est justement celui avec qui Big Joe Turner a fait ses débuts. Et ensuite, que le guitariste que vous entendez, qui s'appelait Leonard Ware, a été le tout premier guitariste de jazz, et peut-être même sans doute le tout premier guitariste tout court, à utiliser la guitare électrique.
Ah ! Qui va faire une très lumineuse carrière ensuite.
On va dire le contraire. Et maintenant, nous voici à Londres. Nous sommes sur les traces du séjour qui fit Fats Waller. Séjour assez prolongé, et dans lequel il enregistra, au grand orgue, s'il vous plaît, une série de gospel magnifique.
Il a beaucoup aimé Londres, et à cause de ça, il a décidé de faire des portraits musicaux des quartiers de Londres. Et celui que nous allons vous passer, ben c'est le quartier de Whitechapel, c'est d'ailleurs le titre du morceau. C'est un quartier plutôt mal famé, hein, je vous le dis d'ailleurs.
Il me semble bien que Jack l'Éventreur, en son temps, y a largement sévi. Et quand je dis largement...
Oui, absolument. C'est un quartier très populaire.
Oui, à l'époque, c'était...
À cette époque-là, hein, parce que maintenant, c'est plutôt des bobos qui y habitent, mais bon.
Ça, c'est une autre histoire.
Et oui, Fats Waller, il est plein de surprises. Vous pouvez l'entendre jouer des sortes de choses extrêmement joyeuses où il rajoute plein de plaisanteries, quelquefois assez grivoises d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, hop, il vous apparaît comme dans ce morceau, à la limite du classique, toujours beau, toujours tonique. Étonnant, non ?
D'autant plus étonnant que là, on est à la limite de la rêverie. Et que les rêveries de Fats Waller ne sont pas très fréquentes.
Je vous disais, c'est presque du classique, mais c'est pas étonnant. Parce que Fats Waller...
Il savait faire beaucoup de choses, et en particulier, étant donné qu'il avait commencé très jeune, tu sais qu'il était à l'orgue à l'âge de 4 ans, et qu'il a commencé par l'orgue et pas par le piano. Fats Waller, donc, qui connaissait très bien Bach. Et on raconte même, j'ai jamais pu avoir une trace réelle, tangible de cette histoire, mais elle se raconte énormément, elle est très connue. Fats avait enregistré toute une série de disques sur des compositions de Bach. Et les Américains n'avaient pas voulu les publier. Et les originaux ont été mis dans un colis, parce qu'un Anglais, un producteur anglais s'y intéressait. Et le contenu du colis, qui a dû être brutalisé pendant le voyage, à l'époque ça se passait en bateau, est arrivé vraiment 1000 morceaux, on n'a jamais pu reconstituer ce qu'il y avait dessus.
Inutilisable.
Donc on ne saura jamais comment Fats Waller jouait Bach. Mais ceux qui l'ont entendu faire, parce qu'il y en a qui l'ont entendu faire, disaient qu'il avait également de très grandes capacités en musique classique. Nous en resterons là. Après tout, l'histoire, c'est aussi ce qu'on en raconte. Voici maintenant un petit orchestre dirigé par un homme extrêmement intelligent qui s'appelait Benny Goodman.
Un blanc, celui-là.
Un blanc futé, car il était à la tête d'un grand orchestre, clarinettiste soliste. Pour moi, c'est ni le meilleur clarinettiste et de loin, ni le meilleur grand orchestre.
Mais alors, quel impresario pour lui-même,
hein ? Il s'était autoproclamé le roi du swing. Et le mot a fait fortune, c'est de cette formule-là que le mot swing a commencé à monter en mayonnaise. Et il a eu l'idée géniale, à côté de son grand orchestre pendant ses concerts, de mettre une petite formation avec de très grands musiciens dedans avec lesquels il jouait. C'est pas mal comme idée. Ça s'appelle...
Woolly Cats. Alors, les cats, je vous explique. C'est le mot d'argot américain pour dire un musicien, un cat, un chat. Et c'est très évocateur comme mot, puisque un musicien, ben, il joue souvent le soir, il traîne et il rentre dans les rues la nuit, comme les chats. Et puis, c'est un malin aussi. Et puis, c'est un homme qui a beaucoup de petites copines. On dit, oh, ben, celui-là, c'est...
Un vrai chat de gouttière.
C'est un chat de gouttière.
Il y a aussi un jeu de mots derrière ça, parce qu'il y a une expression américaine qui n'est pas « Woolly Cat », mais « Holy Cat », qui indique la surprise et l'étonnement. Le titre « Woolly Cat » veut dire « rien que des musiciens ». C'est tout dire. Et là, le petit père Goodman, il s'est simplement payé Cootie Williams à la trompette, Charlie Christian à la guitare, Count Basie au piano, et il a quand même fait venir son saxophoniste ténor habituel, un très bon musicien méconnu, qui s'appelait Georgie Ault.
Je vous ai dit tout à l'heure que les musiciens étaient souvent smoking, beaux comme des astres, et ils attachaient beaucoup d'importance à la manière dont ils se coiffaient. À l'époque, on aimait beaucoup les cheveux brillants. Et quand on a des cheveux crépus, c'est pas évident.
Ah oui, il fallait que ce soit brillant et un petit peu cranté.
Et vous vous rendez compte ? Alors, il y avait toute une succession, bien sûr, de produits, dont une huile spéciale pour que les cheveux brillent, pour aider à les assouplir, de façon à pouvoir les tirer un peu. Et cette huile, bien connue des Noirs, s'appelait Wild Root.
La racine sauvage.
Eh bien, c'est le nom du morceau que nous allons vous passer.
Parce que, figurez-vous, la maison qui produisait Wild Root était le sponsor principal d'une émission de radio, à l'occasion de laquelle ce morceau a été joué par Woody Herman, qui était justement un orchestre où personne n'avait besoin de se décrêper les cheveux. Wild Root par l'orchestre, le big band de Woody Herman. Voici venir Willie the Whipper.
Ça, c'est un morceau vraiment connu. Hein.
Ah, je vais même te dire mieux, ce morceau-là, cette version-là, tous les gens qui commencent à jouer du jazz, les orchestres, tu sais, qui se forment entre débutants, quand les gens étaient ados, ou entre 16 et 19 ans, tout le monde a connu ce morceau par cœur, et très souvent, ils l'ont monté dans leur tout premier répertoire. Willie the Whipper, c'est donc un morceau très célèbre à cause de Louis Armstrong, que nous allons entendre, mais le titre... Le titre vient d'une vieille chanson, car Willie the Whipper, ça veut dire Willie la pleureuse.
Le geignard, puis le drogué, parce qu'il n'est pas heureux. Hein.
Ce type qui est complètement déjanté dans la chanson ancienne.
Dont on parle.
Il est dit qu'il a organisé sa vie comme un hérisson à ramonner. Alors ça veut tout dire, nous n'insisterons pas, c'est à la fois le désordre, le côté complètement anarchique, et puis la fonction de hérisson à ramonner, bref. Et la chanson ajoute, il se droguait et ça lui faisait du mal. Laissez-moi maintenant vous raconter les rêves qu'il faisait. Nous ne connaissons pas, nous, les paroles suivantes, mais nous connaissons Louis Armstrong. Et bien justement, le voilà avec un solo de guitare banjo de Johnny Saint-Cyr qui est également resté légendaire.
Ça, on se dit, ces gens-là, qui pour la plupart dans cet orchestre venaient de ce qu'on appelait les brass bands, c'est-à-dire au fond ce que nous appelons les harmonies, et bien ça, c'était une sacrée école musicale.
Ça, c'est sûr. Tu sais que Louis Armstrong, qui avait été mis dans une maison de redressement à l'âge de 13 ans.
Parce qu'il avait fait une grosse bêtise.
Une grosse bêtise.
Il avait pris le pistolet de son beau-père pour aller faire le cacou dans les rues. Et il avait tiré en l'air, bien sûr. Mais quand même.
Oui, il y avait un gros policier qui l'a saisi au callback. Enfin bref, et ben Louis Armstrong a été immédiatement recruté dans l'harmonie de la maison de redressement.
Parce que c'était des gens qui avaient compris que la musique, c'était quelque chose qui pouvait cadrer les gamins et en même temps leur donner beaucoup de joie.
Et tu sais que beaucoup plus tard, Louis Armstrong est retourné à la Nouvelle-Orléans, qu'il avait quitté beaucoup plus jeune, et qu'il est allé voir son vieux professeur de musique, qui s'est fait photographier avec la même harmonie qui existait toujours.
Et oui, parce que des petits qui font les malins, ben, y en a toujours un peu là.
Eh bien, on avait gardé son cornet. Et maintenant, ce tout premier cornet de Louis Armstrong se trouve au musée de la Nouvelle-Orléans. Hein, c'est pas beau, ça,
voilà.
La musique de jazz. Et maintenant, nous allons sauter de la Nouvelle-Orléans à Chicago, car le morceau s'appelle
Windy City Boogie Windy, pourquoi ? Parce que c'est la cité du vent, comme chez nous, voyez.
Saint-Flour et Chicago ont le même surnom.
On est un tout petit peu moins grand quand même. Hein.
Bien, nous n'évoquerons pas plus Chicago à propos de Saint-Flour, de toute façon. Cette cité du vent a été mise à l'honneur par plusieurs musiciens. Et voici King Cole. Nat King Cole, c'est un chanteur très célèbre, un crooner. Mais en réalité, pour nous, c'est un des plus grands pianistes de jazz aussi.
Mais ça n'empêche pas qu'il a eu un succès absolument phénoménal.
Et nous allons vous faire écouter une rareté, car il a très rarement joué le boogie, King Cole. Mais ce jour-là, eh bien, avec son trio, ils ont enregistré
Windy City Boogie.
Et c'est un vrai boogie woogie.
Et maintenant, on va vous parler d'un gagnant. Parce que le titre du morceau, c'est Winning Boy Blues, c'est-à-dire Winning, c'est le type qui gagne. C'est pas que c'est un joueur qui réussit absolument à la roulette ou avec les chevaux. Non, 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 non. C'est avec les dames.
Oui, lui, il gagne l'estime des dames.
Oui.
Et c'est curieux parce que moi, j'ai longtemps cru que c'était un joueur qui gagnait tout le temps parce qu'il trichait. Winning Boy, c'était le jeune type qui triche, comme dans l'arnaque.
Mais c'est pas ça, non.
Pas du tout, car to win, ça veut aussi dire séduire. Et le Winning Boy, en fait, eh bien, c'est le séducteur, c'est le jeune homme qui sait y faire avec les dames. Et, en plus, ça s'applique plutôt au jeune homme, très jeune, et même quelquefois très très jeune. Alors c'est Jelly Roll Morton.
Un expert en la matière.
Oui, oui, oui. À tel point d'ailleurs que dans les paroles de ce morceau qu'il a composé lui-même, il se compare à un Don Juan absolument légendaire. J'aime beaucoup ce morceau, non pas à cause du titre,
oui.
Mais parce que c'est un morceau où tout le côté flemmard que peut prendre le jazz du Sud est très évident, y compris dans le vocal. C'est indéfinissable, hein, cette espèce de nonchalance que prend la musique. Le jazz a cette composante-là, toujours. Si le jazz n'est pas détendu, c'est pas ça. Là, vraiment, on est totalement ce qu'on appelle là-bas lazy.
Et pour parfaire ce bonheur lazy, bah, y a quand même Sidney Bechet.
Eh oui, Sidney Bechet est au studio avec Jelly Roll ce jour-là. Thank you.
I'm the whining boy. Don't deny my name. I'm the whining boy. Don't deny my name. Deny my name. I'm the whining boy. Don't deny my name. Pick it up and take it like sweet staving chains. I'm the whining boy, and I don't deny my name.
C'était la planèse du jazz.
À la planèse prochaine.